Amis auditeurs de Radio Nîmes, bien le bonjour. Eh bien, en ce vendredi 13, je reçois le dernier des candidats pour les élections municipales de 2026. Là, je me bafouille ce matin. Municipales qui se dérouleront donc dimanche 15 et dimanche 22, dans un contexte un peu particulier, mais on va en reparler. D'abord, bonjour Franck Proust, donc leader de la liste Tout Nîmes.
Bonjour à toutes et tous.
On est heureux de vous accueillir dans les studios de Radio Nîmes que vous connaissez bien d'ailleurs, c'est pas la première fois que vous venez ici.
Tout à fait, on connaît bien les lieux.
Tout à fait, alors j'ai pensé qu'on ne pouvait pas débuter cette émission sans parler des problèmes qui se posent au Moyen-Orient, avec une nouvelle inquiétante pour les prochains jours, et puis le premier décès d'un militaire français. Cette base qui était installée en Irak a été attaquée par un groupe terroriste par des missiles. On a donc un décès, 5 blessés. On a donc une pensée pour ce militaire tué ainsi que sa famille, et puis on souhaite un prompt rétablissement aux 5 militaires blessés. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce que la guerre va s'éteindre? On peut craindre le pire. Quoi qu'il en soit, est-ce que cette guerre, cette situation internationale a des conséquences? Elle a des conséquences immédiates, on l'a vu avec le tarif du carburant. Est-ce qu'elle va avoir des conséquences sur les élections, au niveau de la participation par exemple, au niveau du vote? Enfin, on ne sait pas. Donc, eh bien, Franck Proust, deux mots là-dessus.
Oui, la situation, comme vous l'avez dit, la crise géopolitique est une véritable crise. D'abord, c'est un drame de perdre un soldat français qui défend nos couleurs, notre drapeau, notre pays. C'est avec beaucoup de tristesse qu'on apprend cette nouvelle. Alors effectivement, on le savait depuis le début, hein, le risque, on le sait, au Moyen-Orient, c'est un risque d'embrasement, et avec comme cible, malheureusement, la France, qui a quand même pas mal de bases dans cette région. Alors effectivement, pour être quand même beaucoup sur le terrain actuellement, il y aura des conséquences, je pense, par rapport à ces élections municipales. D'abord, une certaine forme d'anxiété. Ensuite, une certaine forme de colère, parce que les gens ne comprennent pas que le gasoil soit à pratiquement 2 euros, alors qu'on nous dit en parallèle qu'il y a des réserves pour 3 mois. Et cette colère, elle peut s'exprimer en grande partie sur un vote, on le sait, hein, plutôt vers les extrêmes ou autres, puisque les gens ont un petit peu ras-le-bol de cette injustice, quelque part.
Tout à fait, merci. Eh bien, on va craindre donc, puisque le groupe terroriste qui a attaqué ces militaires a annoncé qu'il allait s'en prendre à tous les intérêts français, on peut craindre également des actes terroristes sur notre...
Bien sûr, il y a une vigilance renforcée, même sur nos territoires.
Tout à fait, donc on peut craindre des attentats sur le territoire, et ça nous amène directement au premier sujet de votre programme électoral, c'est-à-dire la sécurité. Donc vous allez être, si vous êtes élu maire, confronté donc peut-être des problèmes plus importants de sécurité. Vous avez déjà un programme bien étayé en matière de sécurité. Alors je vous laisse le soin de nous le présenter.
C'est vrai, il y a trois priorités en fait chez les Nîmois aujourd'hui: la sécurité, ouais, la santé et le pouvoir d'achat. La sécurité est une priorité parce que c'est la première de nos libertés. Après, je ne vais pas mentir aux Nîmois, matin, midi et soir, comme un certain nombre de concurrents, le maire, lui seul, ne pourra pas combattre, par exemple, les narcotrafiquants. Le maire ne peut pas, aujourd'hui, compte tenu du contexte légal, faire fermer, par exemple, les épiceries de nuit. Par contre, le maire a un rôle à jouer sur ce que j'appelle la tranquillité et sur toute cette délinquance qui, entre guillemets, nous pourrit la vie au quotidien. Donc c'est la raison pour laquelle, en premier lieu, je souhaite instaurer le couple maire-préfet, comme on l'a pu connaître pendant le Covid, de manière à ce qu'il y ait une mutualisation, une synergie entre la police municipale et la police nationale, avec plus de force. Et on le voit bien, à un moment donné, quand on prend un arrêté de couvre-feu et autres, ne serait-ce que sur le périmètre, ne serait-ce que sur la façon de travailler, les décisions doivent être prises au plus haut niveau. Alors il y aura certes un adjoint à la tranquillité, mais néanmoins, il est important que ce couple fonctionne véritablement bien. Ensuite, nous allons continuer à embaucher de la police municipale, même si c'est la troisième PM de France. On va arriver à fin 2026 à 200 agents municipaux. On en recrutera 20 par an, ce qui puisque le prochain mandat fera 7 ans, ça portera l'effectif à 340. On va continuer à équiper la ville de vidéosurveillance. Je rappelle qu'on est la deuxième ville la plus vidéosurveillée avec 700 caméras. Et puis on va utiliser une nouvelle technologie, comme les drones, puisque maintenant, depuis 15 jours, l'Assemblée nationale nous a permis d'utiliser les drones à titre expérimental. On va mettre des postes de mobiles municipales qui vont pouvoir irriguer les quartiers avec des permanences. On va créer une brigade de nuit, justement, pour lutter sur les nuisances nocturnes de tout ordre, et on sait qu'elles sont nombreuses. Et puis je vais créer un office de la tranquillité au cœur de ville, parce que c'est vrai que pour les Nîmois, comme pour les visiteurs, qui sont victimes d'agression ou témoins d'une agression, eh bien, c'est important d'avoir un pôle central qui permettra d'épauler les gens pour faire les premières démarches. Et puis, dernière mesure, une mesure qui existe déjà sur la ville de Nice, ce sont des bandes d'urgence adossées à des débriefilateurs qui seront directement reliées à l'hyperviseur urbain, de manière à ce que, là encore, quand vous êtes victime ou témoin d'une agression, ou d'une délinquance, d'un vol, ou autre, eh bien, vous n'aurez qu'à appuyer sur cette borne pour qu'il y ait une intervention la plus rapide qui soit.
Je voulais une précision concernant les épiceries de nuit.
Oui.
Je crois qu'il y a un arrêté municipal qui oblige les épiceries de nuit à fermer à 22h.
Effectivement. Mais c'est comme dans beaucoup de domaines, la peur de la sanction est quelque chose d'important. Aujourd'hui, Monsieur le préfet fait un travail remarquable auprès des épiceries de nuit, mais la peine maximum encourue, c'est 6 mois de fermeture et 1500 euros d'amende. Est-ce que vous croyez que c'est suffisant pour arrêter ce genre de choses? Non, ce qu'on demande, et c'est une doléance du dernier salon des maires de France, c'est que nos députés nous donnent le pouvoir législatif d'interdire ce type d'activité sur un certain nombre d'artères. Parce qu'on a une foncière, c'est-à-dire qu'on est en mesure de pouvoir parfois prendre un fonds de commerce, mais on peut pas le faire sur toute la ville, parce que les moyens sont limités. Et aujourd'hui, vous êtes en France, donc dans une économie libérale, n'importe quel propriétaire peut louer ou vendre un pied d'immeuble à qui l'entend. Donc, quand j'entends certains candidats à coups de menton dire « Moi, maire de Nîmes, je fermerai les épiceries de nuit », aujourd'hui, légalement, vous n'avez pas le droit. Donc j'attends un contexte législatif pour nous permettre d'être plus efficaces.
Vous savez qu'il y a un de vos concurrents qui, lui, veut carrément abroger l'arrêté sur la fermeture des épiceries de nuit à 22h.
Mais dans quel but?
Ah, je sais pas, mais c'est dans son programme.
Mais parce que aujourd'hui,
ce qui m'a un peu surpris d'ailleurs.
Oui, non, mais bon, il y a beaucoup de choses qui me surprennent parfois. Mais aujourd'hui, 22h, c'est ce qui permet, parce qu'au-delà d'un certain nombre d'épiceries qui, on le sait, ne vivent pas de leur activité économique, il y a quand même, ça engendre après 22h, notamment des nuisances qui, sont ingérables pour l'espace public.
Tout
il y a
fait.
Des gens qui n'arrivent même plus à dormir. Donc, c'est un véritable sujet. La tranquillité publique, c'est aussi quelque chose d'important. Et dans certains quartiers, les gens en ont un petit peu ras-le-bol.
Tout à fait. Alors, je confirme les nuisances nocturnes à des épiceries de nuit, parce que dans une autre vie, j'ai eu à m'en occuper, n'est-ce pas?
Oui.
Tous ces problèmes. Et c'est vrai que c'était les voisins de ces établissements qui en fait vivent de blanchiment d'argent et tout. Il faut pas se faire d'illusions, c'est pas, ils font
alors,
pas.
Alors faut pas mettre tout le monde dans le
pas
même.
Tout le monde, mais y
faut
en
pas
beaucoup.
Caricaturer la situation, mais un bon nombre. Ouais. Un bon nombre, c'est le cas, oui.
C'est quand donc je me suis occupé de ça, donc je connais un peu le problème. Donc je
confirme. Bah, encore une fois, moi je suis pour, si on veut être efficace, la peur de la sanction. Et la sanction aujourd'hui, vis-à-vis de ces épiceries de nuit, les sanctions ne sont pas à la hauteur des délits qu'on peut observer.
Tout à fait. Alors un deuxième sujet qui est très important, c'est la santé.
Oui.
Et j'ai vu que vous aviez des propositions intéressantes concernant la santé, en particulier le problème de déserts médicaux qui existent même en ville.
Tout à fait. Vous savez, j'ai deux chiffres qui sont alarmants. Vous avez pratiquement 20 000 Nîmois aujourd'hui qui n'ont plus de médecin traitant. Et vous avez un généraliste sur deux qui, à horizon 2030, sera parti à la retraite. Ça veut dire que si on ne fait rien, alors que c'est une compétence d'État,
oui.
Eh bien, les déserts médicaux pourraient exister sur Nîmes. Et quand vous n'avez plus de médecin traitant, vous avez des difficultés à obtenir des rendez-vous chez les spécialistes et vous attendez parfois 6-8 mois. Ouais. Alors quand c'est pour une paire de lunettes, tout va bien. Mais si vous avez une sale maladie, entre guillemets, ça peut engendrer la mort. Donc ce que j'ai proposé avec Jean-Olivier Arnaud, qui est sur ma liste, qui a été directeur du CHU, c'est de créer dès le mois de septembre les états généraux de la santé avec l'ARS, avec le CHU, avec les cliniques privées, avec la CPTS, avec le monde médical, pour redéfinir le contrat local de santé. Nous allons également avoir une politique volontariste vis-à-vis des internes pour, au même titre que les infirmières avec le CHU, essayer d'aider les internes en médecine de manière à ce qu'ils puissent rendre sur la ville de Nîmes un certain nombre d'années. On va avec la CPTS également, sur la base du volontariat, créer une cellule médicale pour désengorger les urgences. Et in fine, on va créer les conditions d'une mutuelle communale pour que les gens qui ont des revenus inférieurs à 1,5 fois le SMIG puissent bénéficier d'une mutuelle, d'une complémentaire santé à de meilleurs tarifs. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a par exemple un certain nombre de retraités qui ont du mal à boucler les fins de mois et qui n'ont plus les moyens de s'offrir une complémentaire santé. Et on sait que la complémentaire santé, notamment dans l'hospitalisation, est quelque chose d'indispensable. La santé ne doit pas être un luxe en France en 2026, et on fera tout pour améliorer cette situation. On va créer également, et c'est, j'ai oublié de vous le dire, des maisons médicales, à l'instar de ce qu'il y a à Castanet, au Clos d'Orville ou autre, pour irriguer l'ensemble de notre territoire, parce que ça aussi, c'est important d'avoir des structures médicales de proximité.
Alors, on se rend compte, au cours de cette discussion, qu'en fait, les collectivités territoriales interviennent de plus en plus sur le domaine qui normalement relève de la compétence de l'État.
Mais regardez, on vient de démarrer le débat. Vous m'avez parlé de sécurité, vous m'avez parlé de santé, on pourrait parler d'enseignement supérieur. Quand la ville, par exemple, ou l'agglomération finance la faculté, c'est exactement la même chose. L'enseignement supérieur, vous avez un ministre d'État, c'est lui qui nomme à la fois les filières, les budgets et les professeurs. Donc, on s'aperçoit que on se substitue en permanence aux carences de l'État, et en parallèle, on en diminue la dotation globale de fonctionnement. Puisque moi, on m'a demandé, par exemple, de clôturer un budget à l'agglomération avec 3,3 millions d'euros en moins. Ça veut dire que, sur le plan de la fiscalité, si vous avez lu mon programme, j'ai pris un engagement fort qui est de ne pas augmenter les impôts pendant la durée du mandat, comme l'a fait Jean-Paul Fournier depuis moins 25 ans, mais que je mettrai tout en œuvre pour la baisser, comme je l'ai fait à l'agglomération. Avec la taxe des ordures ménagères, j'ai baissé de moins 10 et de moins 5. Mais pourquoi je ne veux pas dire une baisse avec un taux précis au Nîmois ? Parce que, pour deux raisons, avec l'endettement de la France, la DGF, la participation des collectivités locales va être de plus en plus grande. Donc on va diminuer la DGF. Et puis, on vient d'en parler en introduction de ce débat, compte tenu de la situation géopolitique, l'Europe va enfin se doter de ce qu'on appelle l'industrie de l'armement, mais vous et moi, on ne veut pas payer un impôt européen supplémentaire, donc ce budget doit être pris sur le budget européen, et ce qui est en train de se jouer, j'interviens au comité des régions pour défendre ce budget, c'est que les fonds les plus en danger, ce sont les fonds de cohésion. Et les fonds de cohésion, ce sont des fonds qui permettent aux collectivités locales de financer des équipements structurants. Quand je dépense 130 millions d'euros sur le PAPI 3, le plan de protection contre les inondations, là, sur le cadre d'USES, eh bien l'Europe me donne 15%. Donc si j'ai plus ces 15%, si on me diminue la DGF, c'est difficile d'aller dire au Nîmois, à moins de mentir en période de campagne électorale, je vais baisser les impôts de moins 6, de moins 10 ou de moins 15. Je ferai tout pour les diminuer. Mais mon engagement, à minima, c'est de ne pas augmenter les impôts parce qu'on est suffisamment fiscalisé à Nîmes.
Alors, point de vue fiscalité, je voulais vous poser la question. La taxe d'habitation a été supprimée, ce qu'ont regretté l'ensemble des maires, je crois. Oui. Donc, de plus en plus, le financement des collectivités dépend du bon vouloir de l'État, en fait, puisque je crois qu'il y a 75% des recettes qui dépendent du reversement de l'État.
C'est ça.
C'est quand même, ça pose pas un problème quand même.
Mais si, puis en plus, moi je trouve que la taxe d'habitation, ça permettait aussi d'avoir un lien
qui était perçu directement
entre la collectivité et ses habitants.
Ouais.
Et donc je trouve que sur le sentiment d'appartenance, Je trouve que c'était une bonne chose, donc je regrette que cette taxe ait été supprimée.
D'autant plus que locataire ou propriétaire, tout le monde bénéficie des mêmes prestations d'une collectivité.
Tout à fait, hein, tout à fait, vous avez raison.
Voilà. Alors, sur la fiscalité, donc, vous avez bien expliqué votre projet. On va passer à quelque chose qui vous passionne, je sais, c'est l'économie, l'attractivité.
Oui, tout à fait.
C'est quelque chose qui... Alors, je vais revenir sur une interview qu'on avait eu ensemble, alors il y a des années, c'était l'époque où vous étiez, si j'ai bonne mémoire, vous étiez député européen.
Oui.
Et c'était la période où il y avait la polémique sur le contournement de Nîmes, la gare de Manduel, etc. Et je vous avais interrogé là-dessus et vous m'aviez fait une démonstration et vraiment des arguments concrets, concis, etc. Alors je voulais vous demander, est-ce que les résultats depuis l'installation de la gare qui est devenue la gare Nîmes-Pont du Gard a répondu à ce que vous en attendiez, ou c'est au-dessus, en dessous, est-ce que...
Alors,
quel est votre sentiment là-dessus ?
Sur c'est effectivement la zone de Magna Porta qui a été longue à sortir parce que les contraintes environnementales notamment sont très grandes. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous bâtissez un hectare d'économie, il faut compenser 5 hectares. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur une zone de 60, si j'enlève les bassins de rétention et autres, vous n'avez plus que 40 hectares de constructibles. Mais pour faire 40 hectares de constructibles, il me faut trouver 200 hectares de compensation agricole. Et donc, ça a mis un certain temps. Il y avait la révision du PLU qui devait être engagée. C'est chose faite sur la zone de Manduel. Le PLU devrait être adopté. Et donc, on a néanmoins contracté avec un certain nombre d'entreprises et le groupe NGE l'arrivée d'un certain nombre d'entreprises. Et vous avez vu la signature déjà d'un big data, il y a de l'industrie également, il y aura un pôle santé. Globalement, c'est 2130 emplois qui sont prévus. Alors, avec un début des travaux, s'il n'y a pas de recours, s'il n'y a pas de problème X ou Y, début des travaux 2027 pour des entreprises qui seront opérationnelles en 2028. Mais il n'y a pas que la zone de Magna Porta, vous avez la base Ogvia également, vous avez vu que j'ai obtenu du garde des Sceaux donc l'installation de la prison, là aussi c'est 700 emplois qui sont prévus, avec au sud de cette prison une entreprise de logistique industrielle qui viendra se brancher sur le fer, parce que c'est une des caractéristiques de cette zone, et donc là c'est 1100 emplois qui sont à créer. Vous avez la zone aéroportuaire également qui est en plein développement, Sabena va se développer, va doubler sa surface et donc va embaucher là aussi pas mal de personnes. Vous savez qu'on a repris à l'État la zone aéroportuaire pour travailler sur le pôle européen de la sécurité civile avec des zones constructibles bord de piste pour accueillir 12 hangars qui pourraient accueillir notamment des unités d'assemblage ou de production dans le domaine de l'aéronautique, mais nous avons également des entreprises liées à l'activité de la sécurité civile qui sont en phase d'arrivée. Et puis, vous avez également un projet marché-gare Porte-Ouest, basé sur un pôle agroalimentaire, et en bas du CHU, Porte-Ouest, sur de l'industrie pharmaceutique et un pôle médical. Donc, on a de belles perspectives en termes de développement économique. C'est important parce que ce sont les entreprises qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi. Et donc, c'est au-delà d'être ma passion, c'est une nécessité pour permettre aussi à toute notre jeunesse de trouver un emploi qualifié sur place.
Oui, alors, pour revenir sur le Manac Porta et puis l'aéroport de Nîmes-Garon, j'ai été un peu étonné de lire une des dernières interviews de Jean-Paul Fournier qui disait on aurait peut-être dû créer la gare près de Garon.
Oui, mais enfin bon, moi je veux bien, je suis pas forcément d'accord avec lui d'ailleurs sur ce sujet, parce que près de Garon, l'idéal, la gare elle aurait dû être à l'époque de Jean Bousquet, de Georges Frêche, à Galargues, parce que une gare commune Nîmes-Montpellier, avec même à l'époque, hein, mais je parle dans les années 60, un aéroport commun Nîmes-Montpellier, ouais, ça aurait été l'idéal. Bon, à partir du moment où Georges Frêche avait obtenu sa gare à Sud de France, qui avait une gare TGV à Valence, le danger c'était de ne pas avoir de gare dans le Gard, et on aurait fait comme les vaches, on aurait regardé passer le TGV. Et donc, il fallait trouver, par rapport au contournement, un lieu sur un nœud ferroviaire Pourquoi Manduel? C'est que Manduel, vous avez un nœud ferroviaire avec une voie qui dessert la gare de Nîmes-Centre. Mmh. Et c'est pour ça qu'on se bat pour cette fameuse troisième voie à quai, de manière à ce que quand vous arrivez à Nîmes-Pont-du-Gard, un peu comme Avignon-TGV, un peu comme Tours-Saint-Pierre-des-Corps, on change de quai et vous avez une navette qui vous ramène au centre-ville en 11 minutes. Le problème d'une gare sur Garon, à côté de l'aéroport, c'est qu'il fallait reconstruire une voie. Donc avec un coût exorbitant. Donc voilà le sujet. D'accord. Aujourd'hui, la gare de Manduel, il y a une connexion vers Alès et il y a une connexion vers le centre-ville de Nîmes. C'est ça qui est intéressant.
Tout à fait. Alors on va continuer, puisqu'on parle économie, on va continuer sur l'attractivité de la ville de Nîmes. Alors quels sont les critères qui font qu'une ville a de l'attractivité, possède une attractivité pour faire venir les entreprises, etc.
Alors vous savez, alors d'ailleurs on va créer un outil qui ce sera une agence de l'attractivité au cœur de la ville qui va regrouper un certain nombre de compétences croisées entre la ville et l'agglo, d'ailleurs entre le tourisme, entre le commerce, sur l'accueil également des entreprises, il y aura un bureau du cinéma également. Vous savez, l'attractivité, quand vous avez un chef d'entreprise extérieur, parce que le développement économique, vous avez de l'endogène et de l'exogène. Notre rôle, c'est d'accompagner les entreprises qui ont de la croissance, un peu comme Sud Métal Provence, un peu comme Symétrie et autres. Et puis, vous avez des entreprises exogènes, de l'extérieur qui viennent. Donc, Soprema, Virbac, Pack Solutions, Thermo Fisher qui se développe. Enfin, vous avez un certain nombre d'entreprises qui arrivent. Bon. Qu'est-ce qu'ils demandent? Un, où est-ce que je peux loger mes cadres? Deux, est-ce que je peux recruter de la main-d'œuvre qualifiée sur place? Quelle est votre politique culturelle? Quelle est votre politique sportive? En fait, une entreprise, ce qu'elle cherche, c'est la qualité de vie au sens large. Ouais. Ça veut dire que c'est un tout. Et donc, quand vous abordez un chef d'entreprise, il faut d'abord avoir du foncier bien placé. Bon, avec des tarifs qui soient adaptés. Mais au-delà de ça, l'attractivité d'une ville, c'est une attractivité globale. Et donc, on doit travailler de manière transversale sur toutes ces compétences. C'est important d'avoir des logements qui correspondent au cadre supérieur. C'est important d'avoir des commerces de qualité. Regardez, quand vous avez les Galeries Lafayette, quand vous avez Fragonard, quand vous avez Zara, qui est un des plus beaux magasins d'Europe, c'est attractif. Les gens, ils le regardent. Quand vous avez des bons équipements sportifs également, c'est important. Quand vous avez une politique culturelle dynamique, c'est important. Ça attire. Donc, voilà, c'est un tout.
C'est tout un environnement qui fait que les gens sont motivés pour venir s'installer sur Nîmes. Mais la priorité, si j'ai bien compris, c'est déjà accompagner les entreprises existantes sur le territoire.
C'est-à-dire, parce que si vous ratez la gestion de la croissance d'une entreprise sur place, c'est une entreprise que vous perdez, et donc de l'emploi que vous perdez. Moi, je vois, il y a des entreprises, c'est ce qui fait la typologie économique de notre territoire. On est toujours sur le souvenir de l'industrie textile avec Éminence, Cacharel et autres. Mais aujourd'hui, Nîmes, c'est pas ça. Nîmes, nous avons un certain nombre de pépites qui démarrent à 30-40 salariés, et puis qui doublent, qui triplent. Et donc, il faut accompagner ces entreprises qui connaissent une croissance fulgurante. On a des leaders mondiaux sur notre territoire. Je pense à Symétrie, je pense à Thermo Fisher, je pense à Phytocontrol, je pense à toutes ces entreprises qui sont des entreprises de nouvelles technologies et qui sont dans leur domaine des champions d'Europe, voire même parfois des champions du monde.
Je crois que c'est un aspect qui n'est pas assez connu des Nîmois, mon avis.
Mais bien sûr, mais il n'y a rien de pire que la communication institutionnelle. On a beau le dire, on le dit dans le support de la ville de Nîmes, on le dit dans le support de l'agglo, mais les gens aujourd'hui, il vaut mieux parler de faits divers que d'économie. Ce que je regrette parfois, vous savez, c'est que vous avez une grande entreprise qui arrive, vous avez 40 lignes, et puis vous avez un fait divers, et là vous avez une page entière. Mais c'est comme ça, ouais. Et je le vois même sur les réseaux sociaux.
Ah oui, c'est quelque chose entre ça et puis les chaînes de télé d'infos permanentes, ça n'a pas arrangé la situation non plus. Alors justement, pour revenir sur l'économie, mais sur un autre plan, toutes ces entreprises ont besoin de personnel qualifié, et donc il est peut-être bon de créer des filières pour alimenter en personnel ces entreprises.
Alors, là aussi, quand j'entends des discours, moi, maire de Nîmes, je vais créer des filières à l'université ou autre. Le maire, il ne crée pas de filières. Il n'a pas la compétence pour ça. Par contre, ce que nous faisons avec le président de l'université, avec le directeur de l'IUT, avec les proviseurs de lycée qui forment des bac plus 2, bac plus 3, avec les organismes consulaires qui ont leurs organismes de formation. Qu'est-ce que nous leur disons? On leur dit voilà le type d'entreprise qui vient s'implanter sur le territoire. Est-ce qu'on pourrait pas créer ce type de filière sur notre territoire? Et donc il y a des filières professionnalisantes et autres, de manière à ce qu'il y ait la meilleure adéquation possible entre l'offre et la demande. Et ça, c'est un travail permanent que nous menons pour permettre, comme vous le dites, que lorsqu'il y a un chef d'entreprise qui arrive, ben, il ait une main d'œuvre qualifiée sur place, et puis ce qui permet aussi à notre jeunesse de pouvoir aller faire des filières et de pouvoir trouver un travail dans sa région.
Ce que beaucoup de gens recherchent, de rester sur place, de travailler dans leur ville. On va continuer avec un sujet qui passionne les Nîmois, en tout cas, c'est l'animation du centre-ville, les halles, etc., le commerce en centre-ville. Je sais que vous avez des propositions là-dessus, en particulier en ce qui concerne les halles, je crois que vous avez été reçu l'ensemble des candidats par les étaliers mardi après-midi, je ne me trompe pas.
Non, c'est un élément important. Quand on regarde ce centre-ville, il y a eu une évolution sur ce mandat assez extraordinaire. Ma collègue Valentine Volbert a fait un travail remarquable avec l'arrivée d'enseignes puissantes, parce que c'est ça qui est important pour un centre-ville. On a été la seule ville où vous avez eu un centre commercial qui s'est ouvert. Ils ont fermé Marseille pour ouvrir Nîmes. Les galeries Lafayette, c'était pas gagné d'avance. Donc, on a embelli, bien sûr, le pourtour des Halles. Aujourd'hui, on a des enseignes qui se sont installées, mais surtout qui fonctionnent bien. J'ai été rencontrer les dirigeants, j'étais encore avec eux ce matin, dirigeants des galeries Lafayette, de Fragonard, de Rituals, de Zara, et je pourrais en citer bien d'autres, parce qu'aujourd'hui, nous avons des petites boutiques de qualité. Valentine Volbert, elle fait aujourd'hui systématiquement l'ouverture d'un certain nombre de magasins de qualité qui ouvrent, et je peux vous dire que vous avez beaucoup de boutiques, parce que la puissance d'enseigne amène la qualité de l'enseigne. Il nous reste encore le bas de la rue Général Perrier jusqu'à l'amiral Courbet à travailler. On a gagné 4 points sur ce mandat de taux de vacances. On était à 14% début de mandat, nous sommes à 10%. Et je sais que le service commerce est en train de travailler, par exemple, sur la cité qui est arrêtée, parce que avec la cité, la Socrie, pour ne pas la nommer, est très intéressée pour racheter, faire venir une enseigne puissante. Ce qui permettrait de drainer un certain nombre de commerces sur le bas de la rue Général Perrier, mais voire même de réhabiliter en partie le nord de l'amiral Courbet. Et c'est très intéressant, parce que là, il y a un peu une espèce de vide en termes d'attractivité. Et puis, il y a notre poumon également du centre-ville. On a une chance extraordinaire à Nîmes. C'est d'avoir Noal qui juxtapose un centre commercial. Donc, avec des gens qui font des allers-retours. Les étaliers eux-mêmes me disent que depuis qu'il y a les galeries Lafayette, ils ont une nouvelle clientèle qui vont dans le centre commercial, qui finissent par acheter quelque chose aux Halles. D'ailleurs, remarquez que vous avez un certain nombre d'étals dans l'allée centrale des Halles qui commencent à ouvrir l'après-midi. Vous savez que ça, c'est un vœu pieux pour que on ait une espèce d'animation, parce qu'il n'y avait rien de pire que de traverser des halles vides pour se rendre au centre commercial. Ce soir, on sera aux côtés des étaliers avec la nocturne des Halles, parce qu'il y a de plus en plus d'animations qui sont, j'allais dire, dans l'après-midi et le soir. Alors, on a un travail de fond à mener avec les étaliers, parce que ces halles doivent être remises aux normes. On veut en profiter, mais ça c'est une discussion que nous devons avoir avec eux, sur une réhabilitation, une modernisation esthétique du pourtour des Halles, mais vous avez pour 6,9 millions à peu près d'euros de travaux, de rénovation, de mise aux normes qui sont indispensables. Et donc le calendrier initial était prévu à horizon 2030. Pourquoi ? Parce que les baux commerciaux finissent à horizon 2029. Et la grande question, c'est de voir comment on surmonte cette période de travaux, c'est-à-dire, il y avait eu un vote, mais bon, j'entends des candidats dire on pourrait faire les travaux en deux fois, en quatre fois et autres, sauf que ça coûte deux à quatre fois plus cher, et que surtout, moi je pense, et je pars du principe, que plus on ira vite, mieux ce sera, et que donc ces 6,9 millions, on peut les faire en 10 mois. Solution envisagée, c'est un déplacement sur le boulevard Gambetta, 10 mois, parce que en deux fois, c'est 30 mois, en quatre fois, c'est 52 mois. Et dire le contraire, parce qu'en période électorale, on peut tout dire, c'est mentir. Donc, moi, je dis que plus on arrivera à aller vite. L'idée, c'est de démarrer début janvier, de livrer les nouvelles étals au mois d'octobre pour qu'ils soient opérationnels pendant la grosse période que sont les manifestations de fin d'année, Noël et premier de l'an. C'est ça qui est important. Et puis après, il y a la problématique qui est très importante pour les étaliers, c'est le renouvellement des baux commerciaux, avec l'intégration d'un véritable fonds de commerce. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de fonds de commerce au Halles, puisque c'est de l'espace public. Ouais. Donc, on est en train de travailler, parce qu'il y a eu une évolution des lois, à la création d'un fonds de commerce qui est synonyme d'une valorisation, d'un retour sur investissement, parce que l'étalier va avoir un fonds de commerce valorisé par le fruit de son travail et qui, quelque part, le jour où il part en retraite, c'est un peu son capital retraite. Donc ça, c'est important. Et voir comment les 70 étaliers d'aujourd'hui, comment on les refait venir. Alors moi, on a proposé ce qu'on appelle un AMI, parce qu'il faut qu'on soit dans la légalité. J'entends des systèmes de coopératives, de déclassement public, sauf que les trois quarts de ces solutions, juridiquement, sont impossibles. Mais bon, je pourrais faire comme d'autres, avoir un discours démagogue, et puis jusqu'au 23 mars, et puis au 22, et puis venir, par exemple, début avril, en leur disant « Ah, je vous avais dit ça, mais on s'est bien renseigné, légalement, c'est pas possible. C'est pas dans mon ADN. C'est peut-être pas forcément un bon comportement électoral pour être élu, mais moi, je préfère dire la vérité. » Donc, ce qu'on a proposé, c'est un AMI, c'est une mise en concurrence très légère, avec beaucoup de critères subjectifs qui nous laissent de la souplesse dans les choix. Parce que l'objectif, c'est que les 70 d'aujourd'hui puissent revenir intégralement dans les Halles demain.
Eh bien écoutez, le temps qui nous était imparti s'achève. Vous avez une minute, je vous accorde une minute pour conclure cet entretien. Je vous remercie pour toutes les précisions que vous nous avez apportées.
Mais écoutez, ma conclusion, elle est claire. Le 15 et le 22 mars prochain, c'est l'avenir de Nîmes qui est en jeu. La grande question, c'est de savoir si oui ou non, on continue l'élan qu'a impulsé Jean-Paul Fournier depuis 2001, avec une ville qui rayonne, une ville qui est de plus en plus magnifique, une ville attractive, une ville qui se développe, ou alors on fait un arrêt sur image, avec quelque chose qu'on a déjà connu, entre 1995 et 2001, des entreprises qui sont parties, des chambres d'hôtel qui ont fermé, des effectifs dans la collectivité qui ont plus que doublé. Et donc, à ceux qui hésitent, à ceux qui voudraient exprimer un vote de colère par rapport à une conjoncture nationale ou internationale, je leur dis à cela, ne vous trompez pas d'élection. Le maire de Nîmes, c'est celui qui crée les ronds-points, c'est celui qui fait venir les écoles, c'est celui, comme vous l'avez dit, qui fait venir les entreprises. Un président de l'agglo, c'est celui qui collecte vos déchets, qui travaille sur vos réseaux de transport. Et donc, ne vous trompez pas d'élection. Je suis le seul à pouvoir faire barrage à cette alliance entre les communistes et les LFI. Et donc, je leur demande, eh bien, dès le 15, dès dimanche prochain, eh bien, de voter utile avec un seul bulletin, une seule voix, la voix sur la liste Tout Nîmes.
Merci beaucoup Franck Proust donc pour cette interview. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous surtout.
Et puis bonne journée et bonne continuation.
Merci.